Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Chelsea-Arsenal, c'est un derby de football comme il y en a très souvent à Londres, sauf que ce soir, c'est la finale de la Ligue Europa qui se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le stade de 70 000 places. Il y aura 6 000 supporters de chaque club, le reste sera pour l'UEFA, ses partenaires et les proches de la famille Aliyev qui dirige le pays depuis la chute de l'Union soviétique, avec des méthodes, notamment sur les droits humains qui posent problème, en particulier lorsque ces humains sont arméniens. Il y a bien d'autres compétitions qui posent le même type de questions. Faut-il des critères de bonne gouvernance dans l'attribution des événements sportifs? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Pierre Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société de la Fondation Jean Jaurès et co-auteur avec Richard Bouygues du livre « Le football va-t-il exploser ?» C'est paru aux éditions de l'Aube. Et Jean-Baptiste Guégan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant et auteur de « Géopolitique du sport, une autre explication du monde », c'est chez Bréal. C'est une question qui n'est pas nouvelle que nous posons ce soir. Cela existe depuis que l'on organise des événements sportifs internationaux. On pourrait reparler des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et d'autres compétitions passées et à venir. Pourquoi le sport est-il un enjeu aussi important pour les pays organisateurs quand ce sont des régimes politiques qui ne sont pas complètement démocratiques, Jean-Baptiste Guégan?
Tout d'abord, organiser le sport, ça permet à un État de se positionner sur la scène internationale. Ça lui permet de montrer finalement qu'il existe, qu'il est reconnu par les autres. C'est un moyen de normaliser sa présence. Et puis surtout, on le voit plus encore aujourd'hui, c'est un moyen de travailler son image internationale, son attractivité. Alors ce que pompeusement on peut appeler un soft power, c'est-à-dire véritablement travailler son image, la capacité à attirer les personnes, les flux, les entreprises. Et donc c'est devenu un véritable enjeu des relations internationales et le sport devient un instrument plus qu'un terrain de jeu.
C'est un enjeu économique également, Pierre Rondeau?
Oui, parce qu'il faut vraiment considérer, vraiment là, dans ce cadre de la géopolitique internationale et du soft power, que le football, enfin le sport et le football en particulier, est extrêmement populaire. Le football draine des milliards et des milliards de téléspectateurs. On sait qu'une finale de Coupe du Monde, ça va être vu par 1,8 milliard de personnes. On sait qu'une grande compétition comme une finale de l'Europa League ou d'une Ligue des Champions sera au moins vue par plus de 500 millions de personnes. Donc, en un seul match, en 90 minutes, on aura les yeux rivés sur Bakou, les yeux rivés sur l'Azerbaïdjan, et donc une publicité, je dirais, limite gratuite, mais on verra après, ça a des conséquences économiques assez importantes, des coûts économiques très importants, mais en tout cas, ça, c'est une fenêtre médiatique mondiale extrêmement importante.
Ça veut dire que c'est plus rentable que d'acheter le Racing Club de Lens, comme ça a été le cas à une époque, Pierre Rondeau, ou que de sponsoriser l'Atlético de Madrid?
C'est pas une question, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il le voit comme une question de rentabilité. Si on est juste dans le cas de la rentabilité, bien évidemment, avoir investi dans le RC Lens, c'était un puits sans fond et un gouffre financier et un flop économique au final. C'est plus au niveau de l'image et de la visibilité médiatique. C'est plus s'afficher comme étant une marque, un pays, une ville importante sur la scène internationale. Il faut vraiment faire le distinguo ici entre l'investisseur, je dirais, lucratif qui viendrait dans un club de football pour générer de l'argent soit à court terme, soit à long terme, et l'acteur, l'investisseur comme l'Azerbaïdjan ou comme le Qatar pour le Paris Saint-Germain qui viendrait dans un but diplomatique pour exister sur la scène internationale et pour faire un nom, pour se faire un nom et accorder un nom à son pays et une crédibilité.
Jean-Baptiste Guégan, pourquoi est-ce que jusqu'ici les autorités sportives n'ont pas ou peu mis en place de critères de bonne gouvernance politique ou économique pour l'organisation d'événements sportifs? Est-ce parce que le sport n'est pas censé faire de politique? C'est un principe olympique, je dirais.
Alors le principe olympique, c'est surtout une gigantesque hypocrisie, parce qu'on sait depuis la naissance du sport professionnel et depuis qu'il s'est institutionnalisé au début du XXe siècle, qu'il y a toujours eu cette dimension politique. Donc la politique est une vitrine facile. La deuxième chose, c'est que les notions de bonne gouvernance, elles sont relativement récentes. Avant, on s'arrangeait relativement bien.
Et relative en plus, non?
Et très relative. Et puis, il y a une dernière dimension, c'est que, encore une fois, le payeur est le décideur. Et aujourd'hui, des États démocratiques capables d'investir des milliards d'euros sur des événements qui durent 15 jours, c'est de plus en plus difficile à justifier.
C'est vraiment ce qui a changé à ce niveau-là depuis quelques années. C'est vrai que c'est totalement vrai sur le fait que depuis toujours, le sport professionnel est politique. On se rappelle de la Coupe du Monde en Italie en 1934, qui avait été totalement contrôlée et organisée par le régime de Mussolini. Donc c'est véritablement politique depuis toujours. Là où les choses ont changé, c'est que les coûts ont explosé. Les coûts ont explosé et en plus, ça s'est vu. Ça s'est vu à travers justement la médiatisation, l'arrivée des réseaux sociaux, la démocratisation de l'information. Et maintenant, on sait que, qu'il s'agisse d'une Coupe du Monde ou d'une Olympiade, les coûts explosent. Par exemple, on a Pékin en 2008 où les coûts ont explosé depuis de plus de 1200% avec un coût total de 36 millions de dollars. Pareil, idem pour Londres, idem pour Rio. Peut-être que Paris aussi explosera. Donc, dorénavant, les populations occidentales se rendent compte que ça coûte trop cher d'organiser soit les Jeux Olympiques, soit une Coupe du Monde, soit une Coupe d'Europe, et donc refusent de payer l'addition, de payer la facture. Et donc, résultat, les organisateurs qui ont besoin de ces compétitions, qui génèrent énormément d'argent, je pense notamment à la FIFA pour la Coupe du Monde, une Coupe du Monde lui rapporte, en un mois de compétition, lui rapporte plus de 4 milliards de dollars. Donc elle a besoin de ces compétitions, et donc elle va aller vers les plus offrants, vers les pays qui acceptent de payer, qui acceptent d'accueillir, donc les pays démocratiquement assez fébriles.
Jean-Baptiste Guégan, donc on a bien compris qu'il y avait une raison essentiellement économique, ou financière plutôt d'ailleurs, pour le match de ce soir entre Chelsea et Arsenal. Pourquoi l'UEFA a-t-elle choisi Bakou et l'Azerbaïdjan en particulier?
Bah d'abord parce que Bakou a candidaté. C'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des villes qui puissent présenter des stades. Et donc, comme tout pays qui font partie de la Confédération européenne, ils ont posé leur candidature. Elle a été étudiée. Ils ont proposé donc des garanties, un stade, des prestations. Et ils ont été retenus. Et c'est intéressant que le football aille sur tous les territoires de la Confédération. Ça me paraît essentiel. Après, on voit clairement que l'UEFA a traité les choses simplement en regardant la dimension fonctionnelle, organisationnelle et économique. Et le reste n'a pas été pris en compte.
La dimension fonctionnelle, pardon, quand même. Mais on sait que les Britanniques sont des gens qui se déplacent beaucoup. 6000 fans pour chaque club. C'est un peu juste, Pierron.
D'autant plus que beaucoup de fans ont fait le choix sciemment et malheureux de ne pas se déplacer pour une raison financière. Mmh. Ça coûte extrêmement cher d'aller faire le déplacement de Londres à Bakou.
Sauf que derrière, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les grandes finales de ce type d'événement, on a surtout la moitié du stade qui est réservée aux partenaires.
Plus de la moitié même. Voilà. Parce que là, on a réservé 12 000 places pour les fans anglais de Chelsea et d'Arsenal, et le reste pour les organisateurs. Donc on est voilà. Quand bien même Bakou est candidaté pour la finale et qu'il ait pu avoir d'autres villes candidates et qu'on ait retenu Bakou, et c'est vrai qu'effectivement, l'UEFA ne s'est pas posé la question des conséquences. Si on avait justement un joueur arménien qui aurait dû faire le déplacement à Bakou, je pense notamment à Henrik Mkhitaryan qui ne pourra pas venir à Bakou puisque d'origine arménienne, en tout cas arménien, ne peut pas se déplacer en Azerbaïdjan. Pour les fans anglais ou d'Europe occidentale, le coût du déplacement, la durée du déplacement pour aller en Azerbaïdjan. C'est vrai qu'on a le discours, et c'est le discours de l'UEFA ou de la FIFA, d'offrir le football au monde entier. Mm-hmm. Le discours officiel de la FIFA pour le Qatar, c'est de dire le Moyen-Orient doit aussi toucher le football. Mm-hmm. Il faut que le football soit accessible pour tout le monde. Sauf qu'au bout d'un moment, on est en droit de se poser des questions.
Mm-hmm. On va reparler du Qatar. Je reviens sur le contexte politique qui influe sur le sportif. Le club d'Arsenal voyage donc sans Henrik Mkhitaryan, qui a préféré rester à Londres pour des raisons de sécurité. Jean-Baptiste Guégan, puisque vous êtes spécialiste de géopolitique, il a raison de se méfier?
Alors il a raison de se méfier, puis il s'en sert aussi. Parce qu'il ne faut pas être dupe non plus. C'est-à-dire qu'il met en avant son arménité, il la présente comme un critère justement face à une possible hostilité azérie. Il a raison, puisque sa sécurité ne pourrait pas être garantie malgré les promesses des uns et des autres. On voit aussi la dimension autoritaire du régime. Là, il y a deux supporters qui ont été arrêtés dans la journée parce qu'ils avaient le malheur de porter un maillot du joueur. Tout ça, on est dans un combat d'image et de communication qui utilise et instrumentalise le football. Ce qu'on voit derrière, c'est qu'on a une équipe d'Arsenal qui va se présenter sans son milieu de terrain créateur. Donc c'est une première défaite pour le foot. La deuxième, c'est que si moi je suis Arsenal et que je perds ce soir, alors que je me suis fait bouffer au milieu de terrain, je vais être de très mauvaise humeur. Mmh. Et puis, pour l'Arménie qui avait la chance d'avoir un de ses meilleurs joueurs en situation de gagner un trophée, il y a encore une défaite.
Oui, ça peut donc peser sur les équipes dans ce contexte d'Arsenal, donc privé d'une option avec l'absence de Mkhitaryan. Est-ce que Arsenal est diminué par le contexte, Pierre Fondo?
Mécaniquement, forcément. Mmh. Jean-Baptiste Guégan l'a très bien dit. Il perd l'un de ses milieux créateurs. Donc mécaniquement, pour l'équité du jeu, pour la finalité, pour la finale, pour le duel sur le milieu de terrain, Arsenal partira avec un handicap. Et c'est déplorable. C'est déplorable que l'UEFA n'ait même pas anticipé la chose et ne soit pas dit que toutes les villes, tous les pays qui censurent, qui interdisent ou qui portent dommage aux intérêts d'une autre nationalité ne doivent pas organiser une finale, ne doivent pas accueillir une finale. C'est quand même très dommageable qu'on se retrouve là en finale d'Europe Europa League à ne pas pouvoir jouer avec un joueur extrêmement important à l'équipe. Donc au niveau de l'équité sportive, donc au niveau du football, on est touché en plein fouet, en plein cœur, et c'est à mon sens très dommageable.
Je le disais et vous le disiez, il y a d'autres compétitions qui posent question, et là on va évidemment parler du Qatar. On reste dans le football. Le pays va organiser la Coupe du Monde 2022. Il y a de nombreuses controverses. Pourquoi ce choix? C'est encore un choix financier, Jean-Baptiste Guégan?
Bah déjà, quand on regarde la procédure d'attribution de la Coupe du Monde, on peut déjà se demander si elle a été légalement obtenue. Hein. On est vraiment dans une... Allez, on peut dire clairement qu'il y a eu un dispositif corruptif qui a été mis en place.
Ouais, ça a été prouvé, justement. Voilà. La corruption
a été démontrée. Ça a été prouvé.
Ouais. Ça a été démontré. Après, ouais. la FIFA pourra dire que c'est passé et qu'il y a autre chose. Mais en tout cas, la corruption a été...
Donc, en tout cas, on est dans une période de la FIFA que la FIFA aimerait bien aujourd'hui oublier. Et quand on regarde le Qatar, très simplement, c'est un pays qui, à l'échelle de sa population, de sa passion et même de son histoire récente, fait figure d'anomalie par rapport à tous les pays qui ont organisé la Coupe du Monde.
C'est pas un pays de football, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
J'ai pas dit ça, parce que le football est vraiment la seconde religion du pays.
Il y a un championnat,
mais soyons honnêtes, si on avait eu à choisir un pays issu du Grand Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite aurait pu être candidate, peut-être un petit peu plus légitime, l'Égypte...
Et on aurait les mêmes polémiques et les mêmes scandales au niveau politique. Voilà. L'Arabie Saoudite, pareil, bon. n'est pas...
Après, encore une fois, le Qatar met l'argent qu'il faut.
Il y a eu de nombreuses controverses. Vous avez parlé de l'attribution, évidemment. La situation des ouvriers qui ont participé à la construction des stades. Le mot d'esclavage a été souvent prononcé, Pierre Rondeau. On pourrait mettre en place des critères.
Mais après, il n'y a pas que ça. Enfin, je pourrais faire une liste très longue sur le Qatar. Oui, les droits LGBT, la peine de mort, le droit des travailleurs étrangers, les conditions climatiques, les conditions environnementales. On parle beaucoup actuellement des risques climatiques et des risques environnementaux. Le Qatar construit des stades dans un pays où il fait plus de 40 degrés et qu'ils annoncent climatisé. Au niveau du bilan carbone, ça sera catastrophique. Et d'autant plus que comme la météo sera extrêmement dure, ils pensent de déplacer la Coupe du Monde en plein hiver, donc ce qui mettra à mal l'organisation...
Faire jouer la finale une semaine avant Noël, hein, c'est ce qui est prévu.
C'est ce qui est prévu, donc mettre à mal finalement l'organisation des championnats européens. Donc à tous les niveaux, le Qatar et la Coupe du Monde 2022 est dangereuse et est inquiétante pour l'avenir. On l'a dit, voilà. Après, je répète, ce qui est mis en avant par l'argumentaire de la FIFA et des partisans du Qatar 2022, c'est un de dire que le monde entier doit toucher le football, y compris le Moyen-Orient, et que deux, la fenêtre médiatique, le monde entier tourné sur le Qatar à ce moment-là, en 2022 ou avant, permettra ou obligera le pays à changer les choses. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le pays, c'est ce qu'a fait le Qatar. Il a décidé d'améliorer, de changer, de réformer son droit du travail.
Alors là-dessus, justement, Jean-Baptiste Guégan, est-ce que il y a quand même des précédents? Est-ce que le fait d'attribuer ces compétitions sportives à des pays qui ne sont pas forcément démocratiques fait changer les choses?
Alors ça, c'est un argument qui est utilisé par ceux qui défendent justement ces candidatures en expliquant que le sport change le monde. Je veux bien, mais il y a une certaine forme de naïveté à ça. C'est-à-dire que là, pour être vraiment un réaliste au sens le plus strict des relations internationales, concrètement, est-ce que vous pensez que plusieurs équipes de football capables de jouer dans différents stades sont capables de modifier la politique et la stratégie d'un État sur plusieurs décennies? Moi, je veux bien y croire, j'adorerais. Je serais le premier à m'enchanter de savoir que les victoires du PSG ont un impact sur le droit des femmes et des homosexuels au Qatar. Maintenant, force est de constater qu'en tant que fan du PSG, c'est pas ce que je vois.
Mais alors, je ne prends pas la défense du Qatar, attention, loin de là. Ce n'est pas mon idée, mais on pourrait tout à fait envisager qu'en 2022, un boycott de sélection européenne par justement la modification du calendrier. Supposons voilà que le PSG doit jouer une Ligue des Champions en novembre, décembre, janvier, février, mais qu'on lui dise non, puisque les joueurs, tes meilleurs joueurs partiront en Coupe du Monde en plein hiver. Donc on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait un boycott des sélections européennes, et si boycott il y aura forcément une obligation de la part du Qatar de pouvoir changer les choses. Je le répète, c'est vrai qu'il faut être très naïf pour croire que le football a cette importance politique, mais c'est en tout cas le but avoué des organisateurs.
Le passage avorté de 32 à 48 équipes, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait remettre en cause l'organisation par le Qatar. Ça fait quand même beaucoup, Jean-Baptiste Guégan.
Alors, si on regarde bien le passage de 32 à 48, hein, il a été définitivement réglé. Hein,
c'est-à-dire oui, c'était la semaine dernière.
C'est un échec pour Gianni Infantino, c'est-à-dire il n'y aura pas 48 équipes, il y en aura 32. Et ça arrange tout le monde. En tout cas, ça arrange les autorités qatariques qui avaient répondu au piège tendu par les Saoudiens de Gianni Infantino. L'idée, c'était d'obliger le Qatar à co-organiser avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. ce qui tombait de manière fort plaisante en pleine crise du Golfe. Le Qatar a très bien joué sa carte puisqu'il a joué sur les indépendants, ceux qui étaient restés neutres dans la crise, à savoir Oman et le Koweït. Bilan des opérations, Gianni Infantino pourra pas se prévaloir lors de sa prochaine réélection d'avoir été un faiseur de paix. Il pourra toujours dire qu'il a essayé.
Sa prochaine élection, la réélection, c'est pas encore fait.
C'est acté, il y a pas
c'est
de candidat.
Il y a pas de candidat contre lui.
Ouais, donc,
mais c'est vrai. Ouais, ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Le contexte géopolitique de la région n'est pas de nature à faire reculer la FIFA. Ça se tend depuis quelques semaines. On est au bord de peut-être de quelque chose. Hein. Les gens se posent la question.
Alors ça fait déjà plus de 2 ans avec le début de la crise du Golfe. Maintenant, il y a d'autres considérations. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis vont rendre les choses complexes. On verra bien comment les choses évoluent. C'est clair que ça va être une compétition qui va coûter très très cher au Qatar, qui va demander énormément de courage à ceux qui vont vouloir aller défendre leurs équipes là-bas. Et puis, il y a la question de la stabilité politique de la zone, et on verra comment ça va se dérouler.
Oui, le contexte géopolitique, il s'applique aussi à l'organisation du rallye Dakar, en Arabie Saoudite. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Là, c'est pas une confédération sportive, c'est une entreprise française qui organise ça, Pierre Rondeau. Là encore, c'est l'aspect économique et financier qui prime, parce que les pays d'Amérique du Sud où le Dakar était organisé ne peuvent plus payer.
Encore et toujours, l'obligation, la nécessité, le devoir économique. Encore et toujours, le billet vert prend le dessus par rapport aux droits humains et aux droits des travailleurs et travailleuses, aux droits de l'homme, tout simplement. Oui. L'Arabie Saoudite a fait le choix, en tout cas a candidaté pour organiser le Paris-Dakar, et les organisateurs, pris par des motivations surtout financières, ont accepté, bien que le pays ne soit pas totalement blanc au niveau du respect des droits de l'homme et des droits de la presse. Oui. Mais voilà, encore une fois, je le répète, c'est encore et toujours une raison financière, et on en est là aujourd'hui pour les prochaines Olympiades, les prochains Jeux Olympiques, les prochaines Coupes du Monde, les prochaines compétitions sportives. Je répète, comme aujourd'hui, ça coûte tellement cher d'organiser une grande compétition sportive sans qu'il y ait derrière de retombées économiques de court terme ou alors de retombées durables, les pays occidentaux ne veulent plus organiser. Et quand on demande aux populations, les populations ne veulent plus organiser, ne veulent plus accueillir. Donc ces organisateurs sont bien obligés de se tourner vers des pays moins clean d'un point de vue démocratique, mais qui leur apporteront des retombées économiques très très importantes.
Les fédérations internes et les confédérations internationales ne souhaitent pas vraiment en fait instaurer des critères de bonne gouvernance démocratique ou en matière de corruption. Jean-Baptiste Guégan, on va dire les choses honnêtement.
Alors, il y aura forcément une tentation, puisque de la même manière que les entreprises jouent avec le RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale, comme Nagadjet, mais certaines s'engagent, il y aura forcément ce mouvement, puisqu'il y a une responsabilisation des acteurs à tout niveau, il y a une pression des ONG, ce qui n'était pas forcément le cas de cette manière-là avant, et surtout, les populations ont pris conscience des stratégies. Aujourd'hui, plus personne ne croit finalement à la vertu que le sponsoring du PSG et la propriété par le Qatar apportent. Les gens sont pas dupes. Et à un moment donné, le fait qu'on en parle par exemple ici, c'est loin d'être anecdotique. Cette stratégie-là aujourd'hui, elle est de plus en plus, non pas condamnée, mais vouée à être relativisée. Et à terme, ce sera moins rentable pour ces pays-là d'investir massivement. On est peut-être sur une tendance de fond positive.
Mais il y a des tentatives au moins d'instaurer des critères, Pierre Rondeau.
Alors l'UEFA, dans sa très bonne gouvernance, a annoncé qu'elle allait mettre en place des critères de gouvernance pour les prochaines désignations des villes hôtes pour les compétitions interclubs.
Donc c'est faisable.
Ça va être fait. La seule chose qui pour moi est extrêmement cynique, c'est que ça va être fait à partir de 2022, que l'Euro 2020, il y aura Bakou qui va accueillir des matchs de l'Euro 2020, donc qui ne respectera pas les critères de bonne gouvernance.
Jean-Baptiste Guégan, c'est faisable ou c'est compliqué?
Ce sera compliqué parce que ça va pas arranger les affaires des uns et des autres. Après, c'est une nécessité.
C'est une nécessité.
Et je pense que c'est une demande des populations, encore une fois.
Oui,
je pense
que les populations. Vous disiez, c'est quelque chose qui monte quand même.
Il y a un vrai mouvement de fond. On le voit en Allemagne, on le voit en France, on le voit dans notre vieille Europe, mais on le voit aussi aux États-Unis. Il y a un vrai mouvement qui vise à faire du sport autre chose. Et aller à l'encontre de ces
changer de modèle, en fait. Changer de modèle.
Merci, Jean-Baptiste Guégan et Pierre Rondeau, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination, Charles Barret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.